Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 20h50. Quelque chose à dire sur mon costume, Pierre ?
Magnifique. Ah. Medrano.
Voilà, un petit côté d'Harry Cole ce soir. C'est ça, hein, ce que disait Pierre en coulisses.
Ah oui, c'est
je
vrai.
Vous lis. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez qu'on commande les... C'est parti. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Bonsoir, Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
On verra comment la crise du Covid a rendu les très riches encore plus riches.
Et on en parlera avec l'économiste Lucas Chancel, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story du jour.
Vous connaissez l'appli TikTok ?
Oui.
C'est devenu l'appli préférée des détenus en France et dans le monde. Je vous raconte cette histoire.
Ce qui est surprenant, parce que les détenus
n'ont pas le droit au téléphone.
N'ont pas le droit au téléphone en prison. Patrick, votre édito ce soir.
Vous connaissez Vichy ? Non, pardon. Vichy, symbole de la collaboration, reçoit la visite d'Emmanuel Macron, premier président à évoquer cette histoire tragique sur place, dans cette sous-préfecture.
Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Des catholiques intégristes qui sont parvenus à faire annuler un concert à Nantes hier soir, un concert dans une église d'une chanteuse suédoise qui dit avoir fait l'amour avec le diable.
Une chanteuse que connaît Pierre.
Figurez-vous, oui.
Mais ça n'est pas l'objet de votre œil ce soir, Pierre.
Non, vous savez de quoi je vais parler ?
Non.
Des costumes de théâtre avec des 60 ans passionnants de Mine Vergès, 60 ans de carrière au théâtre, aux musicaux, les partout.
Mais ça tombe bien, juste après C'est à vous, je monte sur scène.
Merci.
Donc je vous en prie, les Tuches sont également nos invités ce soir dans C'est à vous. C'est déjà Noël avec le quatrième volet de cette comédie phénomène. Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Olivier Barou et Michel Blanc dînent avec nous. Ils partagent le risotto à la courge que prépare en ce moment ma même fille Pierre Rigottier, chef propriétaire du restaurant Lune à Vert. Et c'est près de Bordeaux, Vert, n'est-ce pas ?
Entre Bordeaux et Saint-Émilion.
Alors, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un plat végétarien que vous nous proposez
non.
ce soir.
Non. Donc aujourd'hui, on va cuisiner avec des produits qui ont poussé autour du restaurant, donc lui. On a la courge potimarron et le chouquel, produit par Rachel. Et la tome de brebis, produit par Annie. Et on va aussi servir la poitrine d'agneau, confite. Avec
bon, bah, bravo, on a hâte de goûter. À tout à l'heure, cher Pierre. On commence par l'édito de Patrick Cohen. Visite très symbolique ce soir d'Emmanuel Macron à Vichy.
Capitale de l'État français de 40 à 44, c'est là que Philippe Pétain s'était installé avec son gouvernement et c'est là que fut conduite une politique de collaboration active avec l'Allemagne nazie. Et curieusement, aucun autre président avant lui ne s'était attardé dans ce lieu maudit de l'histoire de France. Jacques Chirac avait fait le geste décisif en 95 en reconnaissant la responsabilité de la France dans les déportations de Juifs. Il l'avait fait sur un autre lieu de honte, à l'emplacement de l'ancien Veldiv, à Paris. Mais Vichy, symbole d'indignité et de compromission, était resté largement à l'écart des visites présidentielles. Alors Emmanuel Macron ne vient pas spécialement à Vichy. Il termine une tournée de 2 jours dans le Cher et dans l'Allier. Et en arrivant sur place, peu après 17h, il a commencé par visiter les thermes de la ville en dégustant de l'eau de Vichy.
Le chef de l'État n'a pas prévu de discours ?
Non, pas sur le plan historique, mais il vient de se recueillir devant 2 plaques commémoratives. La première à l'Opéra de Vichy, là où Pétain et Laval avaient convoqué députés et sénateurs le 10 juillet 40 pour enterrer la République et donner les pleins pouvoirs au maréchal. La plaque rend hommage aux 80 parlementaires qui ont dit non. À noter que le parvis de l'Opéra, juste à côté, a été rebaptisé il y a plusieurs années, place Simone Veil. Et puis la deuxième plaque a été installée devant l'ancien hôtel du Parc, siège du gouvernement, là où fut donné l'ordre de rafler les Juifs étrangers de la zone libre le 26 août 42, à l'initiative de Pétain, après négociation de Bousquet, notamment avec les Allemands. 6500 d'entre eux, dont des centaines d'enfants, furent livrés aux nazis et déportés à Auschwitz. C'est ce que rappelle la plaque. Emmanuel Macron s'est contenté de dire ce matin au micro de France Bleu et à nouveau il y a quelques minutes devant les micros qui se tendaient et sans citer Éric Zemmour qu'il fallait se garder de manipuler l'histoire.
Les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont tous évité Vichy.
Alors pas tout à fait. Valéry Giscard d'Estaing est venu en décembre 78 mais pour prononcer un discours sur l'aménagement du territoire sans aucune allusion historique. Et puis il y a le cas de Gaulle. Je dis le cas de Gaulle parce que c'est sans doute le discours discours le plus déroutant du général. Il ne figure pas d'ailleurs dans le recueil de ses discours et messages où il y a vraiment tout, tous les discours qu'il a prononcés dans toutes les sous-préfectures.
Sauf celui-là.
Mais pas à Vichy, mais ce discours est dans les archives de l'INA. Le président de Gaulle est donc passé en coup de vent à Vichy le 17 avril 59 lors d'une tournée dans le Massif central et sur les marches de la mairie, il a plaisanté sur sa présence à Vichy. Vous connaissez la formule, imagine-t-on le général ? Bah, imagine-t-on le général de Gaulle plaisanter sur Vichy ? Bah oui, il l'a fait, regardez.
Je vais vous faire une confidence, vous ne le répéterez pas, mais je suis obligé de dire qu'il y a un peu d'émotion pour moi à me trouver officiellement à Vichy. Vous en comprenez les raisons, mais nous enchaînons l'histoire. Nous sommes un seul peuple. Quoi qu'il nous soit arrivé, les péripéties ont pu être ce qu'elles furent, les événements ce qu'ils ont été. Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je le dis.
Qui parle de péripéties, nous enchaînons, dit-il, à propos de l'histoire, à propos aussi surtout d'un régime contre lequel il s'est dressé, un régime qu'il a condamné à mort et déchu de sa nationalité française. Mais à ce moment-là, de retour au pouvoir, l'heure n'était pas à réveiller les brûlures de l'histoire. De Gaulle n'a d'ailleurs prononcé que très peu de discours mémoriels.
Vous avez dit régime de Vichy, ce qui ne plaît pas aux vichistes.
Non, c'est le grand combat de tous les maires de Vichy, qu'on arrête de faire de leur ville un synonyme de collaboration. Il faudrait parler, c'est vrai, du régime de Pétain. Et il faudrait aussi arrêter de parler du maréchal Pétain, qui n'est plus maréchal depuis 1945, depuis qu'il a été reconnu coupable d'indignité nationale et privé de tous ses grades militaires. Il est seulement Philippe Pétain.
Bonsoir Perry Collégas.
Bonsoir. Mec.
Journaliste, chroniqueur gastronomique, notamment sur RMC pour l'émission Estelle Midi. Aymeric Caron, journaliste, écrivain. Merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre, non pas du général de Gaulle et du régime de Pétain, mais de la question du jour, le foie gras est-il encore le bienvenu à table ? On y vient dans un instant. Juste un mot sur cette visite très symbolique d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Vichy qui rappelle qu'il faut arrêter de manipuler l'histoire. C'est important, cette visite, dans le contexte actuel.
C'est important, oui, absolument, vu notre actualité avec ces odeurs fascisantes qui sont en train d'imprégner l'atmosphère avec cette campagne présidentielle. On a vu ce meeting très inquiétant de par sa teneur, de par les propos Zemmour, mais qu'on commence à connaître maintenant, mais aussi par ce qui s'y est passé, par cette violence. Et bien évidemment, on a là un falsificateur d'histoire qui aujourd'hui a la prétention de devenir président de la République à coup de mensonges. Et c'est très important aujourd'hui de faire des mises au point très claires.
Perico.
Le seul problème, c'est que le 10 juillet 1940, c'est toute la classe politique française unanime, socialistes, libéraux, démocrates. Il y avait 80 héros de la résistance, dont Léon Blum qui était en tête.
Quelques... Dont certains socialistes radicaux et libéraux aussi.
Bien sûr, mais sur 565, les communistes étaient interdits puisque le pacte germano-soviétique les avait discrédités après la loi Daladier. Et c'est la classe politique française en entier qui a plébiscité les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
À Philippe Pétain.
À Philippe.
Pétain.
À Philippe. La classe parlementaire qui était là,
de camp,
la France a basculé dans la collaboration. Je vais à Vichy, j'ai amené mes enfants voir.
Il y avait des résistants ça veut dire, déjà à ce moment-là.
Il n'y a pas encore beaucoup. Il y en a même très peu.
Pardon, mais les 80 ont risqué leur vie.
Ils ont tous
risqué leur vie en disant non.
Ils n'ont pas risqué leur vie. Ils sont presque tous morts de façon violente. C'est pour vous dire seulement qu'on peut se trouver dans une situation extrêmement sereine. Je connais Vichy, j'ai amené mes enfants pour qu'ils voient l'hôtel du Parc, voilà. La douce France, tout d'un coup, tout peut basculer de façon institutionnelle et régulière et on peut basculer de la plus exemplaire des démocraties qui était la Troisième République dans la plus, plus abominable des régimes de collaboration avec les institutions. Et en 45, la plupart de ces gens-là, malgré tout, sauf les dignitaires qui ont été jugés ou fusillés, l'appareil de l'État qui avait soutenu Vichy est resté en place. Voilà. Donc, leçon de Vichy, très important que Macron y aille. Je ne sais pas aujourd'hui, si toute la classe politique était confrontée à la même situation, qui ferait quoi ? Personne n'a la réponse. Soyons très modestes et très prudents sur les conclusions qu'on pourrait avoir dans ces circonstances.
Bon, c'est d'un tout autre débat qu'on ouvre dans un instant et qui conjugue gastronomie, mais aussi éthique et politique. Strasbourg, Villeurbanne, Grenoble et même Lyon. Maintenant, Lyon ont tranché. Le foie gras est banni des réceptions officielles au nom du bien-être animal.
Les gens regardent toujours la France sur la question du foie gras avec une certaine, une grande interrogation, sinon le constat que décidément ces Français peuvent maltraiter les animaux.
Le foie gras sera banni des réceptions officielles de la ville de Lyon.
Mon choix, c'est d'aller vers
une alimentation qui soit la plus respectueuse de la planète, des animaux.
Je suis jamais invité au pot de la mairie, donc je m'en fiche et j'en mangerai toujours chez moi.
Mais on pourrait aussi interdire de manger des huîtres au motif du bien-être animal, parce que l'huître, vous savez, on la mange vivante. Hein.
Plus de viande dans les cantines, plus de foie gras, et bientôt ce sera quoi? Plus de viande du tout, plus de poisson. Enfin, on va manger que des légumes, quoi. Mmh.
Juste, Yannick, 3 secondes. Le sujet, c'est pas le foie gras, c'est le gavage. On peut faire du foie gras sans gaver. Faut quand même que vous sachiez.
Bon, on reprend dans l'ordre. Déjà, c'est un combat que vous menez depuis longtemps, Aymeric Caron. Vous expliquez que le foie gras est issu de la souffrance d'animaux rendus malades par un gavage qui rend le foie 10 fois plus gros que la normale.
Oui, une maladie qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire que des arguments nous sont avancés, peut-être Péricot va-t-il y faire référence.
Tout à fait.
Pour nous, pour nous dire que ben, le gavage est une opération assez classique pour les oiseaux migrateurs en l'occurrence, puisqu'effectivement, ils se gavent bien eux-mêmes. Bon, sauf que ça n'a absolument rien à voir avec un gavage naturel. D'abord, les oiseaux concernés, la plupart, sont des canards qu'on appelle les canards mulards, qui sont des hybrides et qui ne sont absolument pas des oiseaux migrateurs, qui sont faits uniquement pour être gavés, qui n'ont donc absolument pas besoin de faire de migration. Et quand les oiseaux qui migrent réellement doivent effectivement s'engraisser un petit peu, c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Là, on a quand même un foie qui a 10 fois le volume normal. Donc, quand on, effectivement, on prend un embuc, qu'on met de force, comme ça, jusqu'à un bout de morceau de l'œsophage du canard ou de l'oie, et qu'on y ingère 1 kg de nourriture, 1 kg à chaque gavage, vous imaginez ce que ce serait l'équivalent pour nous.
Vous êtes d'accord avec la conseillère municipale de Grenoble qui dit que c'est pas une tradition française, c'est une honte française, le gavage des oies. Et vous, évidemment, vous vous félicitez des décisions des municipalités Europe Écologie Les Verts.
De fait, c'est une tradition. Après, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il y a certaines traditions qu'il faut arrêter, et que c'est pas parce que c'est une tradition que c'est une chose moralement acceptable. Évidemment, je me félicite de cette décision, d'autant que là, en plus, ça concerne, si j'ai bien compris, des réceptions officielles.
Mairie de Lyon veut essayer de convaincre les restaurateurs lyonnais de suivre cette initiative et de ne plus servir de foie gras dans les restaurants.
Il n'y aura aucune obligation, qui est ensuite une campagne pour sensibiliser sur la réalité du foie gras, ça ne me choque pas. Mais sur un plan aussi symbolique, d'ailleurs, le foie gras est un produit de luxe. Qu'une municipalité décide de le supprimer de ses réceptions officielles, ça ne me choque pas, même pas vis-à-vis des citoyens.
Le foie gras est une honte nationale, Péricot Légas.
Le foie gras industriel est la plus abominable honte. La malbouffe. C'est le symbole absolu de la malbouffe. C'est ignoble. C'est produit dans des conditions tragiques, des animaux qui sont maltraités. Merci à L214, à laquelle je m'oppose, de nous avoir ouvert les yeux. Merci à Aymeric Caron, qui m'a fait évoluer dans mon comportement de consommateur de viande. Très important à dire. Nous ouvrons les yeux, nous prenons conscience. Moi, je n'avais pas conscience de tout ça il y a longtemps, maintenant, ça fait longtemps. Et le foie gras industriel que vous avez, foie gras de masse, dans les grandes surfaces, destinées à des gens qui ont peu de moyens, à qui on fait croire que c'est du foie gras, c'est une honte absolue. Je dénonce cet amalgame scandaleux de confondre le foie gras industriel provenant d'élevages ignobles, où les animaux sont maltraités, torturés, tandis que tout ça pour avoir des prix les plus bas, avec les quelques élevages qui restent encore en France.
Artisanaux,
c'est-à-dire des éleveurs. J'y étais hier à 17h dans les Landes, je suis allé voir, je suis à plein temps, et je dénonce tout de suite. Car je veux continuer à pouvoir consommer du foie gras et je veux pouvoir continuer à prescrire à mes lecteurs, à mes auditeurs, qu'il y a du foie gras, du juste foie gras honnête. Alors, on aura le débat de l'animalité. Bien sûr qu'il faut sacrifier l'animal à un moment donné. Mais moi, j'ai vu des élevages de moins de 500 bêtes. Et l'avenir du foie gras, ça sera où on le fait de façon éthique. Moins de 500 bêtes, canins ou oies, dans les élevages respectés, sans souffrance, avec un gavage qui est doux, où l'animal accepte de se faire gaver et ensuite il est abattu. Si on n'arrive pas à ça, eh bien il n'y aura plus de foie gras. Mais comme le reste des produits carnés. Et je fais avec Aymeric et N214 une partie du chemin ensemble. Ensuite, nous divergeons. Eux sont dans le véganisme pour la suppression de la consommation de toute vie animale. Mais jusque-là, je dénonce le foie gras, la viande industrielle, la malbouffe industrielle, qui, pour satisfaire les exigences de la grande distribution, c'est quoi le but? C'est de dire on va démocratiser quelque chose qui n'est pas démocratisable.
Oui, donc ça, il y a un prix. C'est pas démocratisable. C'est-à-dire qu'on continue à réserver ce produit à ceux qui ont les moyens de se payer.
C'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de quantité. C'est un produit de saison. Les oiseaux naissent au printemps. Ils sont adultes en novembre. C'est pour ça d'ailleurs que le foie gras est une tradition de Noël. Ça coïncide avec le calendrier. Et nous ne pourrons accéder qu'à une quantité de foie gras et de viande qui auront été élevées de façon décente et respectueuse de l'animal et produites dans une forme d'éthique qui permettra aux consommateurs...
Est-ce que les gaveurs artisanaux respectent le bien-être animal?
Je ne le crois pas. Et c'est là l'un des problèmes. Le pas que peut faire Péricot, en effet, vers L214 ou des militants comme moi pour les droits des animaux, c'est de considérer qu'il faut effectivement mettre fin. C'est-à-dire, moi, je veux continuer à manger de la viande. moi j'ai essayé de le convaincre, je n'y arriverai jamais, mais d'arrêter complètement, en expliquant pourquoi il est mauvais d'interrompre inutilement la vie d'un animal. Mais je crois que Péricot fait partie de ceux qui sont d'accord pour dire arrêtons au moins les pratiques de maltraitance. Mmh. C'est ça que tu veux dire. Évidemment. Et c'est d'ailleurs en ce sens, je crois que c'est le sens de l'histoire, et c'est le sens qui intéresse aujourd'hui tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions politiques ou leur engagement pour les animaux. La loi qui était passée là récemment, il y a quelques semaines, par les députés et les sénateurs, la loi contre la maltraitance animale, et prouve bien qu'aujourd'hui cette question intéresse tout le monde. Or, ce qui est gênant avec le foie gras, c'est pas simplement qu'on tue un animal, c'est bien la manière dont on va obtenir ce foie dit gras. Or, Péricot nous vante à l'instant un élevage, un petit élevage donc non industriel qui serait bien meilleur pour les canards. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a moins de bêtes. Alors certes, il y a sans doute, on va dire qu'ils sont en plein air, il n'y a plus les cages, etc. N'empêche que l'opération de gavage reste la même. Et il y a eu, quand même, 2-3 petits points pour que nos spectateurs situent bien. En 1998, il y a eu un rapport scientifique auprès de la Commission européenne qui a dit que c'était une légende que de considérer qu'un canard ne souffrait pas lorsqu'on le gave. Ça n'existe pas, quelle que soit la méthode utilisée. Et ce n'est pas un hasard.
Même un gavage doux, quoi.
Non. Ouais. Et dans les directives européennes, il est interdit, justement, de nourrir un animal si cette opération le fait souffrir. C'est-à-dire que d'après les directives européennes, le foie gras, eh bien, c'est interdit, en tout cas l'opération de gavage. Et c'est le cas d'ailleurs dans quasiment la totalité des pays européens. La France aujourd'hui commence vraiment à faire exception.
Mais il y a un paradoxe quand même, parce que les Français, dans leur grande majorité, dénoncent la souffrance imposée aux canards lors des opérations de gavage. Exactement. 60%, je crois. Ça, c'est un sondage justement par L214. Ouais. Mais la filière pèse 2 milliards d'euros, la filière française de fabrication.
La filière industrielle, bien sûr.
Oui, mais ça veut dire que les Français aiment consommer du foie gras.
Non.
Et à la fois, ils...
Non, ça veut dire qu'on
ils savent que c'est le produit des souffrances.
Non, Elisabeth, ça veut dire qu'un système économique, la grande distribution, l'agroalimentaire, ont expliqué aux Français, vous pourrez consommer du foie gras pour pas cher et du saumon fumé, autre barbarie. Imaginez qu'on dise, tout le monde va vouloir s'acheter une Mercedes. Attention, il n'y a pas les freins. Mais je veux que tout le monde puisse rouler en Mercedes, mais il y a un danger. Eh bien, c'est la même chose. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le foie gras est le seul produit gastronomique d'origine naturelle et non pas culturelle. Le grand patrimoine culinaire français, c'est de la culture, c'est d'inventer.
En quoi il est naturel ?
Là, les animaux se gavent.
Ah oui, ça je l'ai déjà, mais j'ai déjà démonté l'argument, Péricot.
Oui, alors je vais d'abord le monter, je le monte et tu le démontes dans 2 minutes. Alors,
Il l'a prédémonté.
Oui, donc les animaux se gavent et je ne dis pas, voyez, il se passe rien. Bien sûr que le gavage actuel est un forçage. Les animaux se gavent. On a découvert le foie gras parce que les animaux, les migrateurs, les palmipèdes, les oies et les canards, évidemment...
C'est un phénomène naturel qui a été industrialisé.
Ils prennent des provisions.
Aucun oiseau ne pourrait voler avec un foie dans cet état. Une fois qu'ils sont gavés, ils peuvent à peine marcher.
Oui.
Donc on imagine mal qu'ils entameraient une migration.
Non, mais
ce n'est pas naturel du tout. Ça, c'est une contre-vérité.
Alors j'explique juste comment on a découvert le foie gras. On a vu que ces animaux se gavaient avant de partir. Ils faisaient 4 ou 5000 kilomètres. Même les petits oiseaux des villes savent qu'à la période froide, ils vont avoir besoin de réserves. Donc les foies augmentent. Et du coup, on a découvert, c'est une tradition qui venait d'Égypte, les Juifs l'ont apporté en Europe de l'Est et puis en Alsace. L'Alsace, il y avait des oies qu'on s'est mis à gaver artificiellement en provoquant une stéatose. J'en ai une magnifique stéatose. Alors, quand on arrête de consommer, quand on dégave, le foie, ce n'est pas une maladie, la stéatose. Voilà. Il peut y avoir une hépatite ensuite.
Stéatose hépatique, oui.
Voilà. Ouais. Mais le foie dégraisse. Et une fois que les oiseaux sont arrivés à destination, le foie maigrit, comme lorsqu'on fait un régime. Donc c'est un phénomène naturel qui a été transformé. Alors c'est une stéatose qui est provoquée. Les oiseaux sont gavés de façon... Les oiseaux sont gavés de façon suave, sont de façon douce, ce que je défends.
Pas d'eau du tout. Et d'ailleurs, souvent, il fuit le personnel.
Non, alors là,
ça c'est aussi une légende.
On ne diabolise pas un peu, justement, ces éleveurs.
Il y a eu entre franciscains et bénédictins, si tu veux, ça peut durer des heures.
Des opérations de communication de la part de l'INRA, notamment, faisant croire que les oies ou les canards étaient heureux quand tout à coup ils voyaient le personnel. Si, si, c'est ce que j'ai entendu.
Allez, au bout de votre âge, pour qu'on comprenne.
Et il se trouve que l'INRA a soutenu pendant des années, en effet, la filière du foie gras, parce que c'est effectivement économiquement un secteur important pour l'économie française. Et les scientifiques objectifs ont dit tout ça est faux. C'est du pipeau. Les canards et les oies qui sont gavés fuient les gens qui viennent. Si, c'est vrai. Les enquêtes le montrent. Les images le montrent.
J'atteste que ce n'est pas vrai.
Hier, à 17h, les canards ne fuyaient pas.
Je n'ai pas vu de maltraitance animale. J'ai vu une opération alimentaire.
Mais vous avez vu des canards heureux.
J'ai vu des canards, je ne sais pas s'ils étaient heureux maintenant. Ils étaient là, ils bougeaient, ils venaient, ils les gavent. En plus, ils sont en addiction, donc ils réclament cette nourriture, puisque
mais justement, question,
ils sont soumis. Le scandale, je finis juste ma phrase. Le scandale, oui, c'est merci. Que l'on, les maires qui ont décidé de bannir le foie gras en jetant une forme d'anathème, ils se prévalent de pratiques épouvantables, abominables, que je dénonce, pour dénoncer des gens qui travaillent correctement. Ça, c'est malhonnête. Et ils jettent anathème sur une partie de l'agriculture traditionnelle, rural, où il y a des gens qui font des efforts, qui respectent les animaux, qui obtiennent un produit de qualité, et on mélange des gens qui sont les salauds avec les gentils.
Ça, je trouve que politiquement... Parce que ils ne croient pas les arguments qui sont avancés comme les tiens.
Mais tout le monde dans le même sac, là, je résume.
Mais non, mais il n'y a pas à mettre dans le même sac. Il y a des gens comme Béricault qui considèrent qu'en effet, il y a peut-être des manières de faire qui ne feraient pas souffrir les animaux.
Oui.
Et sauf que ça, c'est complètement démenti par tous les scientifiques. Donc il y a des élus qui ne croient pas à ton discours.
J'ai autant de scientifiques à ta disposition qui peuvent te démontrer qu'il n'y a pas de souffrance et maltraitance animale.
Très bien, et ensuite je te passe la parole à Pierre.
Le foie gras peut être produit de manière éthique. En gros, pour résumer.
C'est mon idée.
Par des petits producteurs.
Oui.
Tout petit. Donc on pourrait produire du foie gras en minuscule quantité,
oui,
si je comprends bien.
Oui. Et il faudra le produire.
Donc, tu veux dire que le foie gras, toi, finalement, et pour la viande, c'est un peu le même discours que tu tiens, ça veut dire que la viande, le foie gras, tout ça, ça va être réservé à une élite.
Absolument.
Une élite financière, des gens qui ont de l'argent.
Absolument.
Mais
pas.
Que le petit peuple, lui, ne doit surtout pas avoir accès à ce genre de.
Bah, si, c'est la question qui se pose.
Si, c'est la conséquence logique de tout ce que tu viens de dire. Tu viens de dire l'industriel.
Ça va venir du caviar.
L'industriel, quel que soit le produit, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements.
C'est rare, c'est très cher.
Le seul avantage de l'industriel, de la production industrielle, c'est de permettre un accès à tout le monde pour un coût extrêmement bas.
C'est terrible, donc tu reconnais qu'un produit infâme que tu dénonces, on peut le vendre au petit peuple.
Non, alors je dis justement alors, que c'est une réalité sociale. C'est ça. Or, donc, que fais-tu du coup pour le foie gras?
J'aimerais juste passer après la parole à Pierre.
Sauf qu'il y en a moins. C'est plus rare.
Certains
c'est un
avec
peu plus
un PEL,
cher.
Quoi. Certains
non, il y a des. Alors, je préfère recommander à des gens qui ont un réveillon, au lieu d'aller acheter un foie gras infâme, qui, moment, n'en est pas un, ou un saumon fumé dégueulasse dans la grande distribution, aller chez un artisan de quartier, manger une terrine faite par un artisan avec des produits frais, manger de la truite fumée au lieu du saumon fumé industriel, réaménager, repenser votre réveillon en fonction de vos budgets pour avoir des produits sains, des produits qui ont du goût, fait par des artisans émérites.
J'ajouterais qu'il y a des produits de substitution végane pour
on
remplacer le...
On y vient, alors, on y vient, Pierre.
Voilà.
Pierre.
C'est à travers... Il y a des solutions et on protège les pauvres en dénonçant ce que la grande distribution met à leur disposition en disant, voilà, allez-y, c'est du foie gras, c'est du saumon fumé. Non. Et ces gens-là sont des victimes du marché. Je suis très étonné que tu ne dénonces pas cette
et pratique. Donc la bataille se poursuit aussi à l'étranger puisque la production du foie gras est interdite dans des pays comme le Danemark, le Royaume-Uni ou l'Australie. Des villes comme New York et Sao Paulo ont décidé d'en interdire la commercialisation. Et certains cherchent, à haut niveau, à tenter des alternatives. Par exemple, le gouvernement britannique a lancé une sorte de concours d'appel d'offres aux restaurateurs pour trouver à matérialiser du faux gras, autrement dit du faux foie gras. Il y a même un chef français qui est installé à Londres et qui a été consulté et qui travaille sur le faux gras. Ça vous plairait d'en manger du faux gras?
Mais c'est au foie gras. Intellectuellement, c'est abominable. C'est qu'on va faire croire aux gens que c'est un pseudo foie gras. Non, c'est pas du foie gras.
Ce sera un
foie
gras approchant.
Pierre, le foie gras est un produit français.
Non, mais
Alsace, Sud-Ouest, il doit être resté régional, il reste traditionnel, alors, il est saisonnier, il est produit en petite quantité, en petite production.
On a bien compris ça.
Et mais quand on peut l'avoir.
L'idée n'est pas de leur faire croire qu'ils mangent du foie gras, tu as bien compris. C'est pour
avoir un goût approchant.
Habitudes, voilà, ils peuvent. Et puis je dirais que la nomination, d'ailleurs, n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, c'est pas du. Ils disent du faux gras. Non, c'est du faux foie en réalité. Non, oui, parce que j'en ai déjà mangé. C'est du faux. Non, mais vous avez raison.
C'est du vrai gras, mais du faux foie.
Par contre, c'est du vrai gras. Pour en avoir goûté, je peux vous le dire.
C'est bon ou pas?
C'est.
Quand on aime le gras.
C'est tout à fait, non, c'est tout à fait agréable comme
goût. Ah ouais? Il faudrait des fausses huîtres aussi? Vous pourriez en manger, ça, des huîtres?
Alors,
véganes?
Depuis le temps qu'on parle de sujet, Annabeth, vous savez comment je fonctionne. Est-ce que l'animal souffre? Est-ce qu'il a une conscience ou pas? Or, il se trouve que dans l'état de nos connaissances actuelles, les moules, les huîtres, non, n'ont pas de conscience.
En
et
revanche,
n'ont pas.
Le homard.
Et le homard, oui, absolument. Les homards, les homards, les crabes.
Mon cher Émeric, tu la manges vivante, elle meurt dans ton œsophage et dans ton estomac.
Mais si elle ne souffre pas, qu'elle n'a aucune conscience.
On ne lui a pas posé la question. Donc, il faut arrêter l'huître aussi. Ah non, il faut arrêter l'huître aussi. Tu la manges vivante. Tu la croques vivante dans ton œsophage. Elle meurt dans des souffrances horribles dans ton cycle gastrique. Et tu viens de me dire qu'elle ne souffre pas.
Mais non,
Va jusqu'au bout de ton idéologie.
Moi, il y a 2-3 huiles qui ont été très heureuses de mourir dans mon œsophage.
Elles en parlent encore.
Elles en parlent encore. Oui, on a fait un petit sondage. Elles sont très heureuses. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité. J'ai cru que vous alliez être d'accord, et finalement non. Et vous m'avez fait peur au début.
Nous avions divergé.
J'ai dit, attendez, je ne comprends pas, on avait compris. Oui,
moi, j'ai vraiment cru.
Nous sommes des ennemis intimes.
Voilà. Bon, je vous remercie.
Merci sur les huîtres, ils sont d'accord.
Oui, c'est vrai. Vous restez avec nous. C'est la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, quand des détenus partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux.
En quelques mois, le réseau social TikTok est devenu l'un des réseaux préférés des adolescents en France. C'est devenu l'application la plus téléchargée dans le monde devant Facebook en 2020. Ça consiste, TikTok, à partager des vidéos drôles la plupart du temps avec de la musique. Et de plus en plus de jeunes, aujourd'hui, avec ces jeunes, TikTok est devenu l'une des applications préférées des détenus en France. Seul hic, le téléphone portable est interdit en prison. Ça n'empêche pas les prisonniers de partager la plupart du temps leur quotidien et leur ennui.
Deuxième division de parachutisme, je m'en bats les reins. Trop de haine, si je meurs, enterrez-moi au Mont Valérien.
Et parfois, ça va plus loin, c'est plus recherché, comme ce compte qui donne des tutoriels de cuisine depuis la prison.
Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire le fondant au chocolat de la prison. Tout d'abord, tu mets 50 g de beurre au fond d'un bol, tu rajoutes 100 g de chocolat. Ensuite, tu viens fondre tout ça au bain-marie. Côté, tu viens venir casser 2 œufs. Ajoute ensuite un pot de yaourt de sucre et tu viens fouetter ça énergiquement pendant 5 minutes. Ensuite, tu verses la préparation de chocolat. Tu beurres ton moule ou ta boîte de thon que t'as préalablement découpée. Tu verses la préparation dans ton moule. Moi, j'ai pas de four, mais vous aussi. Alors, tu viens enfourner ça à 180 degrés pendant 7 minutes. Et voilà, bon app, régale-toi. Abonne-toi pour plus de recettes.
C'est une recette en prison, Babette. Ça existe vraiment. En tout cas, certains participent même à des lives tous les matins pour mettre en avant leur quotidien. Des vidéos qui passent parfois le million de vues. Lamal El Pistolero est passé 3 fois par la case prison dans sa vie. Il est désormais repenti, rappeur et animateur sur la radio Génération. Pour lui, TikTok permet aux prisonniers de s'évader au sens figuré.
Les réseaux sociaux, ça sert à tout simplement s'évader. À avoir une proximité avec nos familles, pour ceux qui ont des enfants ou autres, justement, ça sert à s'évader. Et contrairement à ce que les gens disent, pas du tout pour faire du trafic ou autre, c'est vraiment pour avoir du sourire extériorisé et rester en contact avec les gens de l'extérieur. TikTok, c'est devenu un nouveau réseau social qui fait rire en plus. C'est-à-dire qu'on est en prison, mais on montre une autre facette. Une facette qu'en fait, en prison, on est des êtres humains, quoi.
Des évasions 2.0 qui ne font pas rire les services du ministère de la Justice. Une grande campagne d'installation de brouilleurs a lieu depuis 2018, ce qui a pu entraîner parfois des problèmes. La prison de la Santé est à 95% brouillée. Des travaux qui ont entraîné la colère des riverains de la prison qui ne captaient plus dans le 14e arrondissement de Paris. Dans le sud de la France, fin novembre, un directeur d'une prison a fait face à un blocage des cours de promenade parce qu'il avait installé des brouilleurs. Pour la porte-parole de la chancellerie, la responsabilité vient des visiteurs qui rivalisent de nouvelles idées pour apporter des portables en prison.
Ça arrive jusqu'aux détenus par des moyens, je dirais, assez ingénieux et parfois beaucoup d'imagination. Une des portes d'entrée, c'est bien sûr les parloirs avec les visiteurs qui vont jusqu'à cacher dans leur corps certaines parties des téléphones qui sont ensuite reconstituées, voire des téléphones en entier. Vous avez aussi des téléphones qui sont cachés, on a déjà vu, dans une baguette de pain, à la place de la mie, etc. Vous avez aussi parfois des jets d'objets à l'intérieur des enceintes des prisons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir un grand plan de sécurisation des établissements pénitentiaires l'année prochaine.
Père Ecologa, ça vous a impressionné ces vidéos ?
Ah, je serai l'administration pénitentiaire. Il y a le problème de la diffusion des images qui sortent de prison, mais le début de la liberté par la cuisine, qu'ils refassent faire la cuisine aux prisonniers. Je connais des prisons où on a fait des thématiques hebdomadaires, chacun avec sa nationalité, et des gens qui se détestaient dans la cour se sont mis à se parler parce qu'ils ont fait la cuisine de mémoire de leur pays ensemble. La cuisine est un symbole de liberté, d'émancipation. Je pense que le ministère de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui est un grand gastronome, devrait introduire des leçons de cuisine dans les prisons. Je pense que la République se porterait mieux.
Voilà pour le conseil signé Perry Collegas. Merci beaucoup, Mohamed. À tout à l'heure pour la story média. Émilie, la pandémie a dopé la fortune des ultra-riches.
Oui, il y a 50 ans, le fantasme populaire, c'était ça, c'est même devenu une série culte.
Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le meilleur.
Voilà, l'homme qui valait 3 milliards, la réalité a dépassé la fiction, puisqu'aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde ne vaut pas 3 milliards, mais près de 100 fois plus. Il s'appelle Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, dont la fortune est estimée à près de 300 milliards de dollars. Barre symbolique qu'il a d'ailleurs déjà dépassée selon le cours de la bourse. Il est à la tête du classement des plus grandes fortunes de la planète, suivi de Jeff Bezos, fondateur et principal actionnaire d'Amazon. À la troisième position, le seul Français du top 10 du classement de Forbes, Bernard Arnault, le patron de LVMH. Ça, c'est pour le podium des trois premiers. Mais ce qui est étourdissant, c'est que si on regarde le classement des 10 premiers, eh bien, les 10 premiers possèdent tous plus de 100 milliards de dollars chacun. Bref, le club du 1% le plus riche a capté plus du tiers de la fortune accumulée sur la planète depuis 1995. Ces résultats sont le fruit du travail d'une centaine d'économistes de tous les continents. C'est le World Inequality Report qui présente l'étude la plus fouillée à ce jour dans plus de 100 pays. C'est un rapport qui a été publié hier, qui révèle aussi que pendant que les riches sont encore plus riches, ce sont 100 millions de personnes supplémentaires qui ont rejoint les rangs de l'extrême pauvreté. Conclusion, après plus de 18 mois de Covid, le monde est encore plus polarisé en termes d'inégalité de richesse. Or, accepterions-nous que 1% de la population ait la moitié des cadeaux Noël, ou alors la moitié des séries Netflix, ou encore plus bête, la moitié des places en terrasse? C'est la question qu'Oxfam, l'organisation qui lutte contre la pauvreté, a voulu mettre sur la table avec une caméra cachée.
J'aurais juste besoin par contre de voir votre revenu d'imposition. Ici c'est réservé au club. Vous comprenez quand je dis club, club des 1%. Les 1% les plus riches. Et c'est réservé aux riches, vous comprenez? Donc si je peux voir votre feuille d'impôt, vous pouvez rester. Vous n'avez pas l'air riche, hein. Loin de moi l'idée de porter un jugement de valeur. Hein. Et votre tenue, ça va pas le faire. Hein. C'est... Là, madame, c'est limite. Je suis désolé.
Vous êtes pauvre, ne soyez pas en plus ridicule.
Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites?
On marche sur la tête du club. Alors, je sais pas, les gens, ça leur parle, le club. Vous savez, vous, le club.
Allez, excusez-moi.
Alors, voilà, le club. Monsieur fait partie du club, visiblement.
Bonsoir Lucas Chancel.
Bonsoir.
Économiste, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales qui publie donc ce nouveau rapport, 228 pages, aboutissement de 4 ans d'études et d'analyses réalisées notamment, enfin vous avez copiloté cette étude aux côtés de Thomas Piketty et de Gabriel Zucman. La pandémie a creusé les inégalités, mais l'Europe et la France en particulier sont peut-être des exceptions. Les inégalités, ils sont moins creusées qu'ailleurs dans le monde.
Alors on le voyait dans la petite capsule, le sujet précédent, les inégalités mondiales ont été exacerbées par cette crise. Plus de 3 600 milliards d'euros supplémentaires de capitalisation boursière pour les milliardaires, quand de l'autre côté du spectre, des centaines, plus de 100 millions de personnes en plus en situation d'extrême pauvreté, les paysans indiens, les populations pauvres au Brésil, des pays particulièrement touchés par la crise. Mais entre ces deux extrêmes, la situation est plus contrastée. Pourquoi ? Parce que dans les pays riches, ceux qui ont la chance d'avoir des politiques sociales, des politiques de redistribution, des services publics, la machine a été actionnée et on a évité une explosion de la pauvreté. Et on a appris au passage, finalement, l'importance de ces politiques sociales, de ces politiques de redistribution, qui sur le long terme, et c'est vraiment ce que montre ce rapport, c'est que c'est vraiment ça qui permet de réduire les inégalités. Il n'y a pas de fatalité du point de vue des inégalités, au final, c'est que des choix politiques.
L'État fort, il doit être présent pendant une pandémie, ou enfin, Covid ou hors Covid. En gros, c'est ce que vous préconisez.
Alors, c'est ce qu'on dit, mais ça a un coût, ça a un prix. Pendant la crise, les États les plus riches ont augmenté la dette de 15 à 20 points de PIB. Qui va payer cette dette? Est-ce que ce sont les jeunes qui se sont heurtés à la crise, qui étaient dans des files alimentaires l'année dernière, qui vont avoir du mal à rentrer sur le marché du travail? Est-ce qu'on leur demande dans 10 ans de repayer cette dette? Ou est-ce qu'on demande aux milliardaires, aux multimillionnaires qui sont bien enrichis pendant cette crise et qui étaient déjà, avant la crise, les grands gagnants de la mondialisation, est-ce qu'on leur demande de contribuer un peu davantage au remboursement de cette dette Covid? Encore une fois, que des choix politiques.
Vous êtes plutôt pour?
Je pense que c'est nécessaire au regard de, un, de la trajectoire de long terme et deux, de cette exacerbation au cours des derniers mois.
Juste, on entend là les propositions des candidats. Chez LR, on dénonce l'assistanat, on propose de supprimer des postes de fonctionnaires. 200 000 propose Valérie Pécresse. Vous dites quoi? On ne pourra pas se passer d'un État fort?
Ce qu'on dit, c'est prenons un peu de recul et comparons-nous aux autres pays du monde et regardons un petit peu l'histoire économique. Et quand on fait ça, on se rend compte quoi ? On se rend compte que ce qui fait la prospérité des pays riches, ce qui fait la prospérité européenne en particulier, c'est cette capacité justement à investir dans les services publics, à garantir un accès pour tous à l'éducation primaire, secondaire, supérieure, à la santé, à la culture, à l'information. Et ça, ça coûte, ça, ça a un prix. Et il faut le financer de manière juste, de manière équitable.
Patrick et Péricot.
Oui, moi j'ai toujours une interrogation sur ce type de classement et de calcul. Pourquoi est-ce que ça a du sens ? Vous parlez de fortune, mais en réalité, vous l'avez dit, ce sont des capitalisations boursières. C'est de l'argent virtuel qui ne rentre dans la poche des milliardaires en question que s'ils vendent leurs entreprises, qui peut être amputé du jour au lendemain en cas de chute de la bourse ou de krach. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il ne faudrait pas calculer cela en termes de revenus et de revenus réels et avec des inégalités qui existent réellement ?
Alors, le problème, c'est que la définition du revenu réel de quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, si on regarde uniquement ce qu'il va se verser sur son compte bancaire à la fin de chaque mois, ça va être très petit, ça va être minuscule par rapport à la réalité économique qui correspond plus justement à ses valorisations boursières.
Et qui est une réalité potentielle.
Qui est, en fait, si on regarde sur le long terme...
S'il vend.
Alors, si c'est... Donc, il vient de vendre une partie de ses parts, d'ailleurs, et on se rend compte que derrière, il y a une véritable...
Ça correspond, donc là, ça lui a fait du revenu directement.
Et ça correspond à une réalité économique qui est que ces entreprises pèsent énormément dans le jeu économique mondial et correspondent, elles répondent à certains besoins.
Perico
il y a 7 ou 8 ans, Bill Gates, vous vous souvenez, a fait don de la moitié de sa fortune, à des, vraiment don, et en numéraire. Il l'a reconstitué en 4 ans. Tant que le système capitaliste financiarisé continuera comme ça, ces fortunes pourront faire don de ce qu'elles vont, elles se reconstitueront. La machine à engendrer la richesse, le profit financier pour le profit financier, est aujourd'hui installée dans le système économique et bancaire américain qui fait qu'il se régénérera toujours. Il faut repenser le système. Tel qu'il est là, il est immortel.
Oui, aujourd'hui, la fortune d'Elon Musk peut prendre un bond incroyable en 24 heures. D'ailleurs, je me rappelle juste de la phrase d'Emmanuel Macron qui disait qu'il faut que les jeunes rêvent de devenir millionnaires. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ?
En fait, il y a deux manières de voir ce qui fait la prospérité d'un pays. La première manière, c'est peut-être ce qu'on a appelé la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que plus ça va bien marcher en haut de l'échelle, plus en fait tout le monde va être tiré vers le haut, il y aura plus d'emplois, plus d'investissements, et puis la société va fonctionner et l'économie sera dynamique. Puis il y a une autre manière qui est de se dire, en fait, c'est en investissant en bas de l'échelle, vers les classes moyennes, vers les classes populaires, que finalement, il y aura cette création économique, cette effervescence. Eh bien, la théorie du ruissellement, quand on regarde 40 ans de données, ça n'a pas franchement bien marché. Les pays qui ont essayé de se reposer sur ce type de vision, c'est des pays qui, finalement, ont des sociétés qui sont plus fragmentées, des débats politiques qui sont plus polarisés et finalement qui n'ont pas réussi à générer cette prospérité des classes populaires et des classes moyennes. Je pense notamment à la société américaine qui a beaucoup de problèmes, qui a une espérance de vie en baisse pour certains segments de sa population et qui a cru pendant longtemps vraiment à ce ruissellement économique qui en fait était surtout un ruissellement vers le haut.
Ce thème, il est fondamental, ce que fait Oxfam et d'autres, mais ce que fait Oxfam depuis des années est absolument essentiel pour nous. Et j'espère que ce thème des inégalités figurera, mais je crains que non, dans les débats de la présidentielle. Je crois que c'est l'un des thèmes essentiels, fondamentaux, qui cristallise bien sûr aussi l'émergence des crises, qui explique aussi l'apparition des crises. On parlait tout à l'heure de Vichy, on parlait de la mémoire historique importante qu'on doit avoir, mais rappelons-nous aussi du CNR, du Conseil national de la Résistance, qui a quand même mis sur place un programme de solidarité des humains entre eux, qu'on a ensuite appliqué pendant quelques décennies, puis qu'on détricote maintenant depuis une vingtaine, une trentaine d'années.
Vous êtes sûr de ça ?
Ah oui.
Oui.
Bon, d'accord, je suis... Voilà. Alors, vous êtes sûr de ça ? On a la plus forte redistribution de...
Vous parliez, Patrick, du fait qu'on
sociale.
détricote ?
Oui, sur le détricotage.
Oui, là, les dernières études, par exemple, je pense que vous allez en parler mieux que moi, mais les dernières études qui nous renseignent sur le résultat des politiques d'Emmanuel Macron montrent qu'en effet, elles ont profité aux 1% ou 2 ou 3% les plus riches. C'est un fait. Les inégalités se sont accrues depuis 5 ans dans ce pays.
Oui. L'Europe dérégule. L'Europe dérégule les marchés financiers,
aussi, c'est pas partie de l'actualité d'ailleurs. C'est une réalité.
Alors, la parole à l'économiste.
Donc, effectivement, la question du financement de ces services publics pose l'enjeu de qui paye et qui paye combien. Et on le voit depuis 5 ans, si on fait le total des réformes fiscales, mais aussi des réformes sociales, c'est-à-dire qu'il y a eu des impôts en moins pour les très riches, il y a aussi des modifications de certains transferts vers les classes populaires, les classes moyennes, je pense aux réformes des APL, etc. Si on fait le bilan de tout ça, il y a effectivement une concentration des gains chez les 1% du haut. C'est 3500 euros de plus en moyenne pour les 1% du haut. Quand les classes très populaires, tout en bas de l'échelle des revenus, il y a des pertes de revenus. Donc au global, on a effectivement une situation qui est plus inégalitaire aujourd'hui en France qu'il y a 5 ans. Et je pense que c'est important pour l'Europe de ne pas uniquement se reposer sur ses lauriers, de se dire jusqu'à présent on a réussi en fait dans ce jeu de la mondialisation à contenir les inégalités. Les tendances récentes ne sont pas forcément très bonnes. Et par ailleurs, si vous me permettez, il y a une dimension qui est importante et qui est nécessaire, c'est celle de la richesse. L'Europe, sur la question des revenus, a réussi à contenir cette montée des inégalités plus que d'autres régions du monde. Sur la richesse, on reste tous très mauvais. C'est-à-dire que les 50% les plus pauvres de la population en Europe, mais aussi dans les autres régions du monde, ne possèdent jamais plus de 5% du total. Qu'on prenne en compte les valorisations boursières ou non, le sujet dont on parlait tout à l'heure.
Pierre. C'est intéressant de voir combien longtemps et à fond ont discuté les membres de la coalition allemande qui vient de prendre le pouvoir, puisqu'ils ont eu énormément de travaux autour de Olaf Scholz sur la taxation du patrimoine. Alors qu'on n'aura sans doute pas le débat pendant la présidentielle.
Alors absolument, le SPD a fait campagne sur cette question de la taxation du patrimoine.
Ils ont cédé.
Qui a cédé aux accords de coalition. Qu'est-ce qui reste? Deux choses qui sont importantes, la hausse du revenu minimum et les investissements dans les infrastructures, dans les services publics. La question qui va se poser encore une fois, c'est qui finance, c'est qui paye?
Vraiment, pour conclure, Aymeric.
Il y a une espèce de tabou aujourd'hui sur l'impôt. On voit bien aussi que dans la philosophie politique, la plupart de ceux qui aujourd'hui amènent des idées nous disent évidemment il faut baisser les impôts pour redonner du pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut regarder dans une autre direction. C'est ce que propose d'ailleurs Thomas Piketty. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Quand on se rappelle ce qui se passait aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, où là, on n'hésitait pas à taxer à 80, 90% certaines tranches, évidemment. Et je pense que ça, quand on dit ça aujourd'hui, ça paraît presque quelque chose d'impossible, alors qu'en réalité, ça a été fait.
Merci beaucoup Lucas Chancel. Le rapport sur les inégalités mondiales est disponible en ligne sur le site du laboratoire sur les inégalités mondiales que vous co-dirigez. Et je signale aussi votre dernier ouvrage, Insoutenables inégalités pour une justice sociale et environnementale. C'est une édition augmentée qui est parue en septembre aux éditions Les Petits Matins. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Salut Mathieu.
Mathieu, cette fois, c'est vraiment le dernier jour d'Angela Merkel au pouvoir en Allemagne.
Oui, parce qu'on a parlé de son dernier G20, de sa tournée d'adieu, de sa dernière fois en France. Mais cette fois, c'était la vraie dernière, ce matin, au Bundestag, les adieux de la chancelière. Les adieux et l'ovation, Angela Merkel restait 16 ans au pouvoir, soyons précis, 5860 jours, 9 de moins qu'Helmut Kohl. Elle transmet le pouvoir de la première puissance économique d'Europe à Olaf Scholz, que vous voyez là prêter serment ce matin, à Olaf Scholz et à sa coalition inédite entre sociaux-démocrates, écologistes et libéraux. Vous l'évoquiez à l'instant, Pierre. Il l'a dit, son premier déplacement, ce sera à Paris.
Meine erste Reise wird mich deshalb auch nach Paris führen. Das hatte ich sehr früh angekündigt und dem werde ich auch nachkommen. Und es geht dann gleich weiter mit all den Zusammenkünften in Brüssel. Aber ich will gerne sagen, dass die neugierige Offenheit, die wir bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sehen, den Optimismus, den sie damit auch verbinden, uns auch selbst erfasst hat.
Angela Merkel quitte le pouvoir avec une cote de popularité au firmament. 80% des Allemands estiment que Mutti a fait du bon travail.
Ich konnte heute, weil ich nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages bin, Olaf Scholz noch nicht persönlich gratulieren und möchte das deshalb auf diesem Wege nachholen. Sie erahnen vielleicht, dass es eine spannende, erfüllende Aufgabe ist, auch eine fordernde Aufgabe. Aber wenn man sie mit Freude angeht, dann ist es vielleicht auch eine der schönsten Aufgaben, die es gibt, für dieses Land Verantwortung zu tragen.
Et que va-t-elle faire maintenant, Angela Merkel? Alors, les spéculations vont bon train, je n'en sais rien. On parle de son amour pour l'Italie. Oh, bah non, dans la presse, il paraît que son mari a trouvé un poste à Turin. En attendant, cette pub pour un magasin d'ameublement suédois qu'on a déjà cité hier soir avec le texte « Enfin à la maison ».
Une musicienne suédoise empêchée de jouer à Nantes par des intégristes catholiques.
Elle s'appelle Anna von Hauswolf. Elle chante, mais c'est en tant qu'organiste qu'elle devait jouer en France. À Nantes, hier soir, à l'église Notre-Dame de Bonport. Le problème, c'est que Anna von Hauswolf a aussi chanté ça. Un titre de son répertoire où elle ose chanter avoir fait l'amour avec le diable dans une église, ça ne passe pas pour certains catholiques de la région nantaise. Les intégristes ont gagné, les spectateurs n'ont jamais pu entrer, les manifestants étaient là avant, le concert a donc dû être annulé au grand désarroi du premier adjoint à la mairie de Nantes qui dénonce cette censure et qui précise même que l'évêché avait donné son accord pour que le concert ait lieu dans une église. Autre répercussion, Anna von Hauswolf devait aussi jouer à Paris demain soir à l'église Saint-Eustache. Ce concert est annulé. Audrey Payas de la rédaction de C'est à vous a pu échanger avec le curé de Saint-Eustache qui ne souhaite pas prendre la parole en public mais qui nous précise qu'il est découragé par les incidents nantais et qu'il préfère annuler pour des raisons d'ordre public. Alors, pour ne pas se quitter sur une fausse note et sur ce point négatif, j'ai la chance d'être assis à côté de Pierre dans la rédaction. J'ai appris aujourd'hui qu'il aime beaucoup cette chanson d'Anna von Hauswolf, Track of Time, c'est cadeau.
Et vous connaissez cette chanteuse suédoise?
Ah bah oui, c'est une extraordinaire musicienne à l'orgue, au violon, à la guitare. Et la chanson qu'on entend, c'était à la fin de Sils Maria, le film d'Olivia Assayas.
Bien sûr. Mais merci pour de m'avoir découverte. Fait découvrir.
Oui,
exactement, découverte ce soir.
C'est Barbara Streisand, on la connaît mieux maintenant qu'ils ont interdit son concert. Empêché.
Oui, c'est vrai. Aussi fort que le
Concours. Beaucoup de gens ont tweeté ça,
d'ailleurs. Aussi fort que le Concours, c'est un manga qui crée l'événement ce matin.
Oui, One Piece, manga japonais dont le tome 1, dont le tome 100, pardon, publié aujourd'hui, a été tiré à 250 000 exemplaires. Alors, je vais vous aider à faire les malins devant les enfants au repas de Noël. One Piece suit les aventures d'un garçon à la recherche d'un trésor dans un univers de pirates. J'arrête là, d'abord, parce que j'en ai pas lu une ligne, et puis parce que sans tome, on y serait encore demain matin. Sortie événement, donc, One Piece, c'est près de 10% du marché manga chez nous. Les experts tablent sur 40 millions de mangas vendus en France cette année, c'est une BD sur deux. Alors comme c'est un événement, Louis Amar et Audrey Payas se sont rendus dans une boutique spécialisée à Paris à la recherche de l'édition collector.
Urgent, je vais chercher un tome 100 de One Piece.
Je suis désolé, malheureusement, on n'en a plus du tout.
Pas trop déçu, monsieur?
Un petit peu, surtout que je les connais bien, c'est un magasin où je viens souvent, donc j'aurais pensé qu'ils allaient m'en mettre un petit peu de côté, mais apparemment non. Donc tant pis, on va faire avec. Hein.
Racontez-nous comment ça s'est passé ce matin.
Alors on a eu presque 200 personnes, en fait, qui sont venues. Malheureusement, on n'avait pas suffisamment de livres. Ils sont arrivés a priori de très bonne heure, parce que les tout premiers étaient là quelques heures avant l'ouverture, je crois.
Vous n'avez pas eu le courage?
Le problème, c'est que c'est pas une question de courage, c'est une question de travail. C'est ça le problème, c'est que du coup en travaillant ce matin à 10h, je suis venu entre deux. Donc du coup je suis venu mais pour rien, donc c'est pas grave, hein, je vais me débrouiller, je vais essayer de trouver ailleurs ou sinon tant pis j'en aurai pas.
On est d'accord que si on veut l'offrir pour Noël, c'est mort?
Ah bah si vous l'avez pas précommandé ou vous l'avez pas trouvé aujourd'hui, ça va être compliqué, ouais. Après il reste les sites de revente, mais ça sera plus le même prix.
Il fallait se lever tôt. Donc, alors pour les déçus, on le trouve à la revente en ligne. Regardez, 40, 50, 80 euros, alors qu'il était acheté 10,75 euros, hein, cette édition collector. Ce matin, il y avait aussi des chanceux qui ont réussi à se le procurer.
Vous, monsieur, vous l'avez trouvé?
Oui.
Comment vous avez fait?
J'ai fait la queue.
Ici?
Oui, enfin, dans la rue.
depuis 8h35.
On a campé, hein. On a campé devant la Fnac de Châtelet là, depuis 8h et quelques. Mais il y avait déjà beaucoup, de gens. Hein.
On a fait la queue à la Fnac de Saint-Lazare pendant 1h30 à peu près.
Je vais même pas l'ouvrir, je vais le laisser comme ça, je vais le garder.
Mais c'est pas pour moi, c'est pour le gamin. Si je l'avais écouté, je serais venu à 6h du matin. Je pense qu'il aurait été très mécontent si j'avais pas pu l'obtenir.
J'ai vraiment tout fait pour l'avoir. J'ai demandé à ma mère.
Moi aussi, j'ai demandé à ma mère. Exceptionnellement, elle m'a laissé ne pas y aller à l'école.
Moi aussi, pour... ne pas y aller à l'école pour le prendre.
Ma maman m'a laissé pas y aller à l'école. Je ne sais pas si c'était la bonne idée. Bon, on revient de loin avec le manga en France. Aujourd'hui, on a rebaptisé le Pass Culture, Pass Manga, tant les jeunes en sont friands. Mais on ne va pas se plaindre que les enfants aiment lire. Quoique, regardez cette archive de 1990.
Quand un enfant voit trois dessins animés japonais, puisqu'il faut quand même bien le dire, c'est là qu'est l'origine des dessins animés ultra-violents d'affilée, je pense que c'est une atteinte à sa liberté de penser, même, parce qu'il n'arrive plus à faire la hiérarchie entre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas.
C'est incroyable.
Alors aujourd'hui, les temps ont changé. Regardez, hein, même le président de la République a un dessin original d'Eshiro Oda, le créateur de One Piece, dessin qu'il a publié sur ses réseaux sociaux.
Ah ouais, mais
faisant beaucoup de jaloux, d'ailleurs.
C'est le président de la République qui a posté ça,
ouais.
Emmanuel Macron.
Il y a quelques jours sur son compte TikTok.
Il a un tirage, il a été dédié.
Ah oui, dédié.
Version dédicacée de l'auteur
original. Qui a toujours quelque chose à dire, mais ça nous arrange.
C'est une qualité artistique, ça fait beaucoup moins de mal aux esprits des enfants que les séries américaines.
Ah, je croyais que c'est le foie gras. Ah bon. Je me suis dit, oh là là.
Tant qu'ils lisent, en vrai. Tant qu'ils lisent, les gars.
Merci d'avoir accepté de débattre.
J'espère qu'il y aura toujours du foie gras, c'est à vous quand les cuisiniers viendront.
Vegan surtout, c'est ça qu'on espère.
Du foie gras artisanal.
On va faire des huîtres.
C'est pas nous qui vous en venus, ce sont nos chefs et qui apportent souvent les produits locaux, les produits de leur terroir, produits par leurs producteurs, ceux qu'ils choisissent. Donc il y a une traçabilité, ça c'est sûr.
Merci.
Voilà, je peux pas m'engager.
C'est du gras local.
C'est du gras local. Merci, cher Péricot. On vous retrouve dans l'émission d'Estelle sur RMC.
Le lundi et le vendredi.
Le lundi.
Elle toute la semaine.
Et elle toute la semaine. Merci beaucoup, Aymeric Caron. Et à bientôt pour votre ouvrage qui sort en janvier. Il y a 10 ans, on faisait les présentations.
Et moi, c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là où c'est que t'es là? T'es là! T'es là ou t'es pas là, avec un T, comme Tuche, comme t'es là? Tuche, t'es là!
Jeff Tuche, originaire de Bouzol, dans le Limarais, regagnant du loto, un temps résident monégasque, détenteur de 15 cartes de crédit qui ont fini égarées dans le Far West.
Tu peux mettre 13 cartes, pas 15. Tu peux mettre 14 cartes, pas 15. Tu peux mettre 15 cartes, pas 15. Ah bah si, tu peux en fait.
Plus qu'une famille, les Tuche, c'est tout un programme.
Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as de la crème, t'as pas de coup de soleil. Mais si t'as pas de soleil, eh ben t'as froid et t'as du givre sous ta voiture. Alors tu prends une raclette. Et si t'as une raclette, t'as le fromage. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France.
Jeff Tuche, président élu puis démissionnaire et désormais en guerre contre Magazon. Et ce soir, notre invité, président, c'est un titre à vie. Hein.
Eh oui, je sais.
À ses côtés, l'ex-première dame, Cathy Tuche, le fidèle voisin Monnier.
Oui, bonsoir.
et le beau-frère Marteau.
Ah, le beau.
Salut à tous les quatre. Le beau-frère, il est terrible.
Il est bien.
Il
est bien.
Un beau salaud comme on les aime. Hein.
C'est ce qui m'a tenté, d'ailleurs.
Les très beaux-frères.
Les très beaux-frères. Bonsoir à tous les quatre. Et vive la French Tuche. C'est le titre du Parisien ce matin. Ah. La une du Parisien, c'est ça, c'est, vous avez créé une French Tuche.
C'est cool.
C'est quoi la French Tuche, s'il faut la définir, Olivier Barou?
En manicure, vous voulez dire?
Je crois que c'est la liberté de ton. Je crois que c'est ça. C'est pas de filtre, on y va et on essaye d'être respectueux, mais drôle, toujours drôle et toujours un peu acide, transgressif. C'est peut-être ça la recette.
C'est la recette. De toute façon, c'est un phénomène que vous ne maîtrisez plus.
Ah ben non.
Ça, les succès s'accumulent. 11 millions d'entrées en 3 films, près de 40 millions de téléspectateurs cumulés.
C'est fou, hein.
C'est un truc de malade.
Ben oui. Oh là là. Nous, juste, on essaie d'écrire des choses drôles qui nous touchent, qui nous amusent. Et puis voilà. Et puis après, le public dispose.
Et vous agrandissez la famille au fur et à mesure, puisqu'on accueille Jean-Yves Marteau, qui est né en costume, qui ne pense qu'à bosser.
Oui.
C'est vous dire si c'est une insulte aux Tuches. C'est quand même honteux, hein, ça.
Bah oui, c'est. Il était normal qu'on se foute sur la gueule à un moment ou à un autre avec Jeff.
Mais vous le faites bien.
Ah
vous
oui.
Vous mettez bien sur la gueule, mais heureusement, Cathy et Maggie sont là.
Oui.
Pour faire régner un peu d'ordre. On y revient dans un instant. Les Tuches sont nos invités ce soir. Les Tuches 4, Et avec eux, c'est Noël quand on veut. A tout de suite sur le plateau de C'est à vous.